Les droits des femmes en question au pluriel et à l'international. Tel est le rendez-vous proposé par l'association Assa Azeka avec le CIDFF 42 et la maison du Crédroc. Le 25 octobre, ça se passera à partir de 16h30 à la maison de l'emploi de Saint-Étienne. Alors pour cet événement, ces trois structures précitées ont invité maître Nadia Haït Zahi, militante algérienne pour les droits de l'homme et de la femme, juriste, avocate et docteur en droit. Alors pour présenter cet événement, aujourd'hui, nous recevons Sakina, présidente de l'association Assa Azeka, et Mélila Baka, directrice du CIDFF de la Loire. Bonjour à toutes les deux, bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour poser un peu les fondations de notre discussion à venir et puis de cette après-midi soirée du 25 octobre prochain, CIDFF 42, qu'est-ce que c'est ?
Alors le CIDFF 42, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Loire. On est une association loi 1901, agréée par l'État. L'objet de notre association, c'est de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et de faciliter l'autonomie sociale, économique, professionnelle, psychique des femmes. Alors des femmes, quand je parle des femmes, j'appréhende les femmes dans leur hétérogénéité, puisque c'est un groupe qui est très diversifié dans les problématiques qu'elles rencontrent. Donc concrètement, on permet à toutes les femmes qui vivent sur le territoire de la Loire d'accéder à un lieu, à une permanence, dans lequel elle va pouvoir trouver des professionnels qui vont pouvoir l'informer et l'épauler dans son parcours d'autonomie. Donc concrètement, on couvre tout le département de la Loire avec un siège social à Saint-Étienne au sein de la Maison de l'Emploi et une antenne à Rouen. Et puis on intervient aussi dans 10 lieux de permanence qui sont distribués sur tout le département, des centres sociaux, des maisons France Service et des CCAS. On intervient en premier lieu sur de l'information juridique parce que le droit peut être quelque chose d'assez hermétique et assez difficile à appréhender, notamment quand on n'a pas été socialisé dans ce monde-là. Donc on propose à toutes les personnes qui viennent à notre rencontre une information neutre, gratuite et confidentielle. Alors qu'est-ce que ça recouvre ? Ben, principalement le droit de la famille. Le droit de la famille, donc les questions relatives aux séparations, les questions relatives aux gardes d'enfants. Le droit du travail, que ça soit dans l'exécution du contrat de travail, au moment où on souhaite rompre son contrat de travail, ou en amont, parce qu'on peut par exemple s'informer sur les clauses qui apparaissent dans un contrat de travail ou sur différentes situations de discrimination, par exemple au moment de l'embauche. Bien évidemment, les violences à caractère sexiste et sexuel, mais on couvre un panel beaucoup plus large, puisqu'on va également couvrir tout ce qui relève du logement, l'accès à un logement décent, le droit de la consommation, etc. etc. On accompagne également et on épaule des femmes dans leur démarche de réinsertion professionnelle, notamment après des périodes de rupture dans leur parcours. Alors pour différentes situations, parfois ça peut être l'exil, parfois ça peut être des situations de violence, parfois ça peut être une mise entre parenthèses, choisie par des personnes qui ont choisi de prendre en charge leurs enfants dans la sphère domestique. Et puis enfin, on intervient beaucoup parce que l'objectif de notre association, c'est pas que répondre aux besoins et aux demandes immédiates des personnes. On vise aussi un objet de transformation sociale et on intervient beaucoup en prévention, à la fois équiper et épauler les professionnels pour qu'ils acquièrent des réflexes plus égalitaires. Et puis, on fait un focus important sur le milieu scolaire parce que ça reste un lieu de passage incontournable de toute une génération. Et on considère que les sensibiliser très tôt aux stéréotypes, à l'impact que ça peut avoir dans les relations qu'ils peuvent avoir entre les filles et les garçons, entre garçons, entre filles, et ben ça favorise une société plus égalitaire, plus équilibrée, et ça fera diminuer à l'avenir les violences qu'on peut avoir dans la société. Voilà en quelques mots le CIDFF de la Loire.
Alors en quelques mots, c'était une présentation plutôt complète. Du coup, l'association Assa Azeka, on en a déjà parlé sur l'antenne de Radio Ondaine, mais une petite piqûre de rappel, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'association Assa Azeka, qui veut dire en tamazirt, une langue qui est parlée par des millions d'habitants donc en Afrique du Nord, mais aussi aux îles Canaries et puis en Europe, en France notamment, ça signifie « aujourd'hui et demain ». Ce slogan, on l'a repris lorsque, il y a quelques années en Algérie, il y a eu un mouvement populaire Pendant des mois et des mois, les Algériens et les Algériennes, quel que soit leur statut social, sont descendus dans la rue pour dire non au quatrième mandat du président sortant et aussi pour réclamer plus de démocratie, plus de justice sociale. On a trouvé que c'était un slogan fédérateur qui nous plaisait beaucoup. Donc on a choisi ce nom et on l'a choisi aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, beaucoup d'associations vont emprunter des noms alors français ou avec des sigles faisant référence aux États-Unis ou autres, et très peu tournés vers le Sud. Et on trouve ça dommage, parce que d'une part, c'est une mauvaise image du Sud et du continent africain, et d'autre part, on a besoin aussi, pour comprendre le monde dans lequel on évolue, pour comprendre ce que je vis à Saint-Étienne, j'ai besoin aussi de comprendre ce qui se passe sous la mairie de Trump, mais aussi ce qui se passe sur le continent africain ou asiatique. Donc voilà, c'est une manière de regarder le monde en passant par des fenêtres étrangères, entre guillemets.
Alors comment se qualifie l'association militante, féministe ? Expliquez-nous.
Alors l'association qui a été créée par un petit groupe de femmes de milieu populaire pour un certain nombre analphabètes, c'était fin 2022, donc c'est tout neuf. On arrive tout juste à la deuxième année d'existence. Elle a pour objet la promotion de la citoyenneté à travers trois axes, l'accès à la science, l'accès au droit et l'accès à la culture. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas là, notre association qui est une association d'éducation populaire, mixte, laïque, plurielle, elle a été créée certes par des femmes de milieu populaire, mais elle s'est largement ouverte par la suite à des hommes avec des classes moyennes, des profils très différents. Des gens qui ont, je veux dire, un passé ou une histoire avec l'Afrique du Nord, mais d'autres pas du tout, qui viennent voilà, de différentes immigrations, de Pologne, d'Italie. Et pour nous, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Ce qui nous unit, c'est de défendre justement un projet de société qui soit juste, qui lutte contre les inégalités et les discriminations, quelle qu'en soit la forme ou les auteurs. Et puis, ce qui nous intéresse et qui est original, semble-t-il, d'après les gens qui nous rencontrent, c'est qu'on a une association d'éducation populaire qui est née dans les quartiers populaires, d'une certaine manière, mais qui revendique le lien avec les savoirs académiques. On dit toujours qu'on n'a pas tous une agrégation de philosophie, mais on a tous un cerveau. Quel que soit notre parcours, notre histoire. Donc ce qui nous intéresse, c'est que les savoirs académiques ne doivent pas rester coincés dans les universités ou dans les beaux quartiers ou des grandes institutions. Et puis en même temps, les savoirs populaires peuvent aussi irriguer la réflexion. L'expertise, elle vient d'expérience aussi. Donc nous, on aime bien faire les allers-retours entre les deux, même s'il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de le dire, effectivement. On vit dans une société qui est fortement marquée par des logiques, des citadelles, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, les territoires qui sont aussi fortement marqués, les classes sociales, le genre et beaucoup d'autres aspects qui parfois peuvent plus cliver que de pratiquer, que de fabriquer de la cohésion sociale. Donc voilà un peu l'histoire de Assange-Camp. Et dernier point, on n'a pas... Quand on s'est créé, notre idée, c'est pas de remplacer des structures d'éducation populaire existantes, il y en a beaucoup sur le territoire, c'est plutôt d'aller là où il y a des trous dans la raquette, dans les dispositifs publics, et puis de dire, là, attention, il y a un truc qui n'est pas pourvu, que personne ne connaît, qu'on n'a pas vu nous-mêmes, et de travailler avec ceux qui le veulent bien pour trouver ensemble des solutions concrètes aux habitants et aux habitantes.
Alors, à l'écoute de la présentation de vos deux structures que vous représentez, en fait, ça paraît comme une évidence d'inviter Maître Nadia Aït-Zaï, lutte contre les discriminations et pour les droits des femmes, avocate spécialisée en droit de la famille, des femmes et des enfants. Voilà, ça, c'est effectivement, à l'international aussi, une bonne personne qui pourrait résumer vos actions du quotidien. Alors, qui est-elle ?
Alors, pour la présenter très rapidement, parce qu'elle a un CV long comme un bras.
Oui, on peut rajouter tous nos bras, oui.
Donc, Nadia Itzai, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant la décennie noire, à l'occasion d'une rencontre et d'un réseau féministe euro-méditerranéen. Et donc, on a eu l'occasion, avec une association française, de se rendre en Algérie, Maroc, Tunisie, sur la question des droits des femmes, et en particulier en Algérie, pendant la décennie noire, où les femmes ont aussi payé un lourd tribut face au terrorisme. Nadia Itzai, donc, c'est une militante féministe. Elle est avocate, elle est professeure de droit à l'université Ben Aknoun à Alger. Elle a fondé donc, en 2002 le CIDEF, qui est un centre qui est parti du constat qu'il y avait un manque d'information et d'expertise sur la question des droits des femmes, mais aussi des enfants. Donc elle a fondé le CIDEF, qui fonctionne bien. Donc par exemple, dernièrement, elles ont produit une étude sur les féminicides en Algérie, et on se rend compte, quand on lit ce document, bon, on se dit, ben, il aurait très bien pu être écrit dans le département de la Loire. Elle est également experte internationale. Elle intervient auprès de l'ONU, du CEDAW, du réseau Euromed aussi. Donc c'est quelqu'un qui est très très impliqué, et puis en même temps qui est très à l'écoute. L'année dernière, elle nous a fait l'honneur de venir. À Saint-Oscar, elle avait sollicité, mais on pouvait même pas lui payer son voyage. Donc, à titre militant, elle a elle-même payé son voyage, elle a fait l'aller-retour Alger à Saint-Étienne. On nous a réclamé son retour, à la fois des gens qui l'avaient entendu, mais aussi qui l'ont raté, mais aussi du côté des institutions, des gens qui ont dit « c'est dommage qu'on n'ait pas été informé », ce qui est vrai, parce que bon, on est un tout petit groupe de bénévoles et on ne peut pas couvrir tous les événements sur le département. Donc elle nous fait l'honneur de revenir le 25.
Alors justement, sa venue et les thèmes qui vont être abordés, sont-ils déjà définis? Et puis vous, qu'est-ce que vous y attendez, notamment au sein du CIDFF, parce que c'est aussi l'occasion d'inviter aussi un public qui ne vient pas vous voir avec ses demandes, mais qui vient aussi assister aux à côté du CIDFF. Alors, à quoi doit-on s'attendre?
Alors, au niveau du CIDFF, de l'association, quand Assa Azkar nous a sollicité, ça me paraissait également d'une évidence qu'on puisse s'associer et rendre réalisable, en tout cas, la venue de Maître Itzai. Alors déjà, il faut se remettre dans le contexte de la création des CIDFF. Donc, ils ont été créés à l'initiative de l'État en 72, il y a un peu plus de 50 ans. Et l'objectif déjà à l'époque, c'était de se dire que dans ce contexte d'avancées réglementaires importantes et législatives qui étaient susceptibles de faire évoluer, de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, il fallait créer des relais, en fait, des relais sur tout le territoire national qui interviennent dans tous les départements déjà, et puis dans tous les types de territoires, les zones urbaines sensibles, le milieu rural, avec des personnes qui seraient qualifiées justement pour être des médiatrices du droit. Donc, en fait, c'est une manière de la venue de Maître Itzai, c'est une manière d'actualiser notre projet associatif et notre projet historique, qui est de désanctuariser le droit, de le démystifier, de montrer les personnes qui le font évoluer aussi, et de les rapprocher de la société civile, de la population. Donc voilà, c'est la première dimension déjà de diffusion du droit, avec une vraie interrogation nous concernant. Il ne s'agirait pas effectivement que les personnes assez proches de ce langage, de cette manière de raisonner, s'approprient leurs droits, et qu'il y ait tout un pan de la population qui reste sur le banc de touche, je vais le dire comme ça, avec une progression de l'égalité femmes-hommes, mais à double vitesse. Donc pour nous, c'était essentiel qu'on puisse s'associer, faciliter, que ça soit aussi un temps de rencontre entre des professionnels, des institutions, et puis un grand public qui ne passe pas toujours effectivement la porte du CIDFF. Alors, du coup, la deuxième dimension aussi, parce qu'au-delà de la question de la diffusion du droit, c'était à l'inverse, donc plutôt le mouvement inverse. On n'est pas des spécialistes du droit de la famille, on n'est pas des spécialistes du droit pénal, on n'est pas des spécialistes du droit du travail, mais on l'est devenu de fait, parce que notre objectif, c'est de répondre aux problèmes concrets et d'apporter des solutions concrètes aux problèmes que rencontrent les femmes qui viennent frapper à la porte. Donc, quel que soit finalement le domaine du droit qu'on va convoquer. Donc ça, c'est ce qui nous spécifie au regard d'autres professionnels de l'information juridique, parce que il faut qu'on soit toujours en veille et qu'on ait un certain nombre d'instruments qui nous permettent d'être sans cesse en permanence à l'écoute des problèmes concrets pour apporter des solutions pertinentes aux problèmes rencontrés. À titre d'exemple, mais ça surprendra personne, en 2021, on a vu une explosion des demandes relatives au droit du travail et pour des problématiques litigieuses, en fait, concernant l'exécution du contrat de travail. Une demande sur deux, sur 1200 rendez-vous qu'on honore par an en matière d'information juridique, concerne du droit de la famille. On repère depuis quelques années que les problématiques de droit international de la famille prennent une ampleur assez conséquente. Et du coup, forcément, il faut qu'on puisse effectivement s'équiper, se former pour apporter une information la plus pertinente possible. Donc c'est une méthodologie spécifique, le droit international de la famille, mais pour nous, il nous semblait évident et finalement, ça coulait de source qu'on puisse aussi s'informer et accroître notre information sur le droit de la famille et le droit pénal algérien qui nous concerne du fait de, des histoires croisées qui sont importantes entre les deux pays. Voilà. Et puis la troisième dimension, c'est que au-delà de... Alors, nous aussi, on est une association qui porte aussi un projet politique de transformation sociale et qui est en l'occurrence féministe. Alors un féminisme de terrain, on fait avec les problématiques concrètes que les femmes rencontrent. Et à ce titre-là, il nous semblait important d'inviter aussi et de mettre à l'honneur des gens qui participent à la fabrique du droit, à son évolution, parce qu'on l'a vu aussi dernièrement ici en France, de manière assez récente, que les droits ne vont pas que dans un sens. On n'est pas à l'abri aussi de droits qui ont été acquis à un moment donné et qui peuvent être révoqués à un moment de l'histoire, y compris aujourd'hui dans notre contexte franco-français. Donc voilà.
Voilà, alors du coup, effectivement, on cherchait à apprendre pour vous aussi des informations, les donner au grand public. On reste un peu dans la présentation, par la science, par l'expertise, par l'échange aussi, l'échange d'expérience. Et c'est aussi une soirée qui donne l'occasion d'avoir un regard culturel, parce que cette soirée ne s'arrête pas à la conférence, mais c'est également aussi des chants populaires kabyles qui sont présentés pour une ouverture festive, entre guillemets, révolutionnaire, pourquoi pas. C'est aussi ça le programme.
Oui, tout à fait. Avant de parler donc, de la partie festive, je voulais juste rajouter un point, c'est que là, on parle de droit, donc de justice, et effectivement, on voit les débats actuels qui traversent, y compris notre Assemblée nationale, sur la justice et le poids de la justice, la séparation entre... les différents pouvoirs, donc ça, c'est tout le temps un débat d'actualité. Et pour citer, je crois que c'est Audiard qui disait, la justice, c'est comme la Vierge Marie, si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Donc c'est bien que des acteurs de terrain, en l'occurrence là associatifs, mais on n'est pas les seuls à le faire, rappeler que la justice et connaître la justice, c'est aussi un devoir de citoyens et de citoyennes. Alors l'intérêt aussi, comme l'a dit Mélila, mais c'est très important de le dire, là on a à peu près 80 personnes qui sont inscrites, ce qui est énorme. Et parmi les profils, on a à la fois des institutionnels, des professionnels, on a des salariés d'associations, par exemple de centres sociaux, et puis des habitants et des habitantes de quartiers populaires. Et pour nous, c'est l'idéal que dans un lieu, effectivement, l'accès au savoir, la connaissance ou la sensibilisation au regard de la loi ou des lois se fasse au même endroit, dans un espace pluriel avec une mixité qu'on rencontre pas toujours. Le deuxième point sur lequel il me paraît important d'insister, c'est que on a beaucoup de débats depuis longtemps, mais ça s'accélère visiblement ces dernières semaines, ces derniers mois en France, mais en Europe, avec la montée de mouvements populistes et d'extrême droite, où on remet en cause celui ou celle qu'on a fabriqué comme un étranger. J'aime bien une citation que j'ai vue sur les murs de Paris, la France aux Français, l'étrange aux étrangers. Donc je me dis, gardez ça en tête, on est tous l'étranger de quelqu'un, quel que soit le lieu où on habite. Voilà, moi qui habite en milieu rural, je suis l'étrangère de ceux qui sont là depuis plusieurs décennies, parce que je me suis installée en milieu rural depuis pas longtemps. Donc c'est important de dire aussi que les injonctions à l'intégration des populations immigrées ou de leurs descendants, qui sont faites de manière récurrente et quel que soit le pouvoir en place, elles produisent des effets à la fois qui interrogent, mais voire même des effets pervers et négatifs. On ne peut pas demander à des gens qu'on exclut, y compris de par la loi, alors pas forcément la loi française, quoique, on a vu le droit des minorités, par exemple des homosexuels, qui a été longtemps dénié, mais des gens qui sont exclus, qui n'ont pas les mêmes droits, on ne peut pas leur demander dans le même temps de s'intégrer, de s'émanciper. Un autre sujet qui est récurrent dans notre association, beaucoup de femmes viennent, comme je disais, et d'hommes, de quartiers populaires de Saint-Étienne. Ce qui nous a surpris, mais pas trop, dès le début, c'était que les femmes en particulier nous ont toutes dit, on en a marre d'être assignées à nos quartiers, il faut faire des activités dans nos quartiers, parce que les structures sont payées, ils reçoivent des fonds publics pour qu'on reste dans nos quartiers, qu'il y ait des activités, et ça, elles en souffrent terriblement. L'assignation, c'est à un quartier ou à une identité, c'est le contraire de la liberté. Donc c'est important de le rappeler. Et tout ça fait qu'on s'est dit, en effet, c'est important, comme l'a dit Mélila, de rappeler qu'on a sur notre territoire des gens qui viennent d'Alger, de Tunis, de Rabat, qui sont potentiellement soumis à des lois des pays d'origine qui peuvent être en contradiction avec les lois françaises. Il y a des lois en Algérie qui discriminent les femmes. Un exemple très concret, il y a quelques années, c'est aussi comme ça que j'ai eu cette idée, en 1995, une femme qui s'est mariée en Algérie, qui est mère et grand-mère d'enfants français qui vit à Saint-Étienne, lorsqu'il y a eu un problème avec son mari qui la trompait, pour dire les choses clairement, l'assistante sociale et les travailleurs sociaux lui avaient conseillé d'aller faire des démarches en Algérie. Et nous, l'association dont je faisais partie à l'époque, lui a dit « Surtout pas, en Algérie, ils vont dire ton mari, il a déjà une femme, il a droit à trois autres. » Parce que la polygamie existe, après on pense ce qu'on veut. Les Algériens sont souverains, ou les Sénégalais, ou les Américains, des lois ou du gouvernement qu'ils veulent, ou du système politique, ou philosophique, ou religieux qu'ils veulent mettre en place. Mais en France, c'est pas normal que des gens, pas, sans doute par ignorance, parfois même par bienveillance, disent « Eh ben, votre culture d'origine fait que c'est comme ça, il vaut mieux aller en Algérie. » Donc on a dit surtout, il ne faut pas y aller. Donc c'est des exemples concrets, même s'il y a des femmes et des hommes qui se battent pour que la polygamie soit supprimée dans nombre de pays, il n'empêche que la loi fait que ça existe toujours. Deuxième exemple, la répudiation, ça existe aussi, ça peut concerner ma voisine à Firminy, à Saint-Étienne. Et donc la justice, c'est notre affaire à tous, partout où il y a des inégalités, des injustices qui s'installent, ça nous concerne tous, comme le disait Mélila tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est important de dire que ce dont va parler Nadia, ce n'est pas simplement de ce qui se passe en Algérie. Elle connaît bien l'Algérie, mais elle connaît bien aussi la Tunisie, le Maroc et d'autres pays du continent africain. Donc montrer que des systèmes en France, les lois concernant les femmes, même si on avance, il n'empêche que sur le terrain, on a encore du progrès à faire. Et à côté de ça, il y a des lois qui discriminent les femmes, qui institutionnalisent les discriminations, qui coexistent. Pourquoi ? Pour une raison très simple, vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce que les lois algériennes elles viennent faire à Saint-Étienne, ou marocaines, ou ougandaises ? Eh bien parce que, si on prend le cas algérien, les Algériens ne sont jamais déchus de la nationalité d'origine. Donc même s'ils sont nés à Saint-Étienne ou à Firminy, potentiellement les lois algériennes peuvent s'appliquer à eux ou à elles. Donc c'est important d'être au courant. Ensuite, les gens font leur vie et font les démarches qu'ils souhaitent. C'est important aussi que les institutionnels, dont nos députés, sachent que ça, c'est un frein à l'intégration des gens, à la liberté, à l'émancipation. Et ça ne sert à rien de dire aux gens « intégrez-vous, intégrez-vous ». C'est à côté, tout est fait. Dans le domaine économique, l'accès à l'emploi, c'est aussi un sujet pour les nombres de ces populations, et pas que immigrés, ni pas que celles qui habitent dans les quartiers populaires. Sur l'aspect festif, l'association Assa Anzkan a en son sein des personnes donc, qui viennent d'Algérie. Et en discutant avec des groupes de femmes, on s'est rendu compte que d'abord, elles avaient une mauvaise image d'elles-mêmes. La difficulté de se présenter en public, de parler en public, parce qu'il y a cette espèce d'éducation à la retenue. Il ne faut pas te montrer. Même moi, parfois, c'était rigolo, parce qu'on me disait, oui, mais... bon, une femme, il vaut mieux qu'elle ne se mette pas trop en avant, parce que les gens, ils vont dire qu'elle veut se mettre en avant. Je dis, mais si c'était un homme, est-ce que vous diriez la même chose? Et ça, c'était, j'allais dire, c'était presque naïf. Elles en étaient convaincues. D'une manière, non pas pour critiquer le rôle ou le statut d'un directeur ou d'une directrice ou d'un président, mais pour dire que, attention, c'est presque pour te protéger. Toi, tu es directrice, mais les gens ne vont pas t'écouter comme ils écouteraient un directeur qui fait tout de suite plus sérieux. Donc tout ça, il faut le travailler parce que ça remonte à l'éducation. Et à travers leurs connaissances, leurs pratiques, leurs parcours, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup de résilience et de résistance, et notamment à travers les champs. Et petit à petit, on est dans l'assaut pour beaucoup passionnés de musique, petit à petit, on s'est rendu compte qu'elles étaient détentrices de ce qu'on appelle oral al-khalath. Oral, en kabyle, c'est le jeu, c'est s'amuser, le jeu des femmes. Et Our al-Khalath, ça n'existe qu'en Kabylie, et on a découvert un trésor que des anthropologues avant nous ont étudié. Ce sont des chants de résistance où il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision contre le patriarcat, contre les violences, contre les inégalités sociales ou économiques. Et pour faire un petit parallèle qui m'intéresse, c'est le parallèle avec le blues. Le blues, ça peut paraître triste, mais en même temps, c'est une arme d'émotion massive, le blues, parce que ça exprime le vécu des gens. Et Our al-Khalath, c'est pas un exercice où on va se montrer en public, pas du tout. C'est une forme d'expression populaire. Our al-Khalath, c'est pas fait pour faire des concerts ou pour pratiquer des activités commerciales. C'est vraiment pour parler. Donc, je me suis dit, il faut vraiment le mettre en valeur. Alors, il y a un gros travail après linguistique, parce que quand on est né à Saint-Étienne, quand on est français, le kabyle, ce n'est pas forcément accessible. Derrière, il y a des métaphores. Mais petit à petit, on découvre un trésor. Et ces femmes, quand on discute, eh bien, on a des débats sur les violences sexistes, sur les inégalités sociales. Il y a une chanson, par exemple, qu'elles ont réadaptée, qui s'appelle Tweb, ça veut dire le médecin, le docteur. Et dans cette chanson, donc ça parle du médecin de Sédérich, donc une petite ville en Algérie, le médecin de Bgeyeth, donc une ville en Algérie. Et le dernier paragraphe, c'est elles l'ont changé et elles parlent des médecins à Saint-Étienne qui, pendant la crise du Covid, ont soigné bien au-delà de ce qu'ils ont de leur force, et qu'il y a des médecins à Saint-Étienne qui, pour de vrai, le serment d'Hippocrate, ils connaissent, ils aident, ils soignent des gens, y compris sans papier, y compris des précaires qui n'ont pas le compte en banque. Et je me suis dit, là, on touche un truc qui est universel, l'accès aux soins. Et c'est formidable, cette créativité. Alors, bon, j'en parle avec passion parce que je trouve ça extrêmement intéressant, bien que méconnu. Mais je pense on va avoir un petit aperçu le 25.
Et ben voilà, à découvrir le 25. Alors, en tout cas, merci Sakina, merci Mélila d'être venue sur l'antenne de Radio Ondaine pour présenter donc cet événement organisé par Assaska et le CIDFF de la Loire. La venue le 25 octobre à partir à 16h30 à la Maison de l'Emploi de Saint-Étienne, à l'amphithéâtre dans le quartier Tarentaise-Beaubrun, de Maître Nadia Itzaï, avocate spécialisée en droit de la famille, femmes et enfants. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il faut réserver néanmoins, oui. C'est beaucoup plus pratique. Il faut passer par le site du CIDFF. Expliquez-nous rapidement.
Oui, soit par le site du CIDFF, soit par Assaska. Il y a des affiches. Donc, il y a un lien qui a été communiqué. Mélila, voilà, il y a votre réseau.
Voilà, via notre réseau. Et sinon, les inscriptions peuvent aussi se faire par téléphone.
Ouais. Au 06 49 77 58 02. Ça, c'est très important ce que vient de dire Mélie, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à Internet, qui ne savent pas utiliser ni WhatsApp, ni un flashcode, donc qui appellent directement. Dernier point, on n'a pas cité la maison du Cré de Roc qui est partenaire,
De l'événement aussi.
Voilà, qui est un partenaire historique, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et pour nous, c'est très très important de faire ce travail-là en lien avec le CIDF, qui a encore plus de légitimité que nous, parce que c'est leur champ d'action, c'est leur territoire aussi juridique. Donc c'est très important de ne pas, de travailler en complémentarité.
Et à noter aussi la présence de Radio Ondaine à ce moment-là.
Absolument.
Pour une captation de cette conférence. Merci d'être venu sur
notre
antenne et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.